Messieurs, dames, bonjour. Il arrive parfois, mais rarement, que pierre qui roule amasse mousse. Ainsi, notre petite pierre, Estivalitude, se transforme tout doucement en un joli bungalow d'été et je vous reçois symboliquement depuis la véranda. Estivalitude, donc, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Étienne Klein, vous êtes physicien, philosophe, vous êtes surtout un transmetteur. On dit parfois, mais c'est réducteur, un vulgarisateur. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour.
Morad Aitabouche, grand reporter, vous avez sillonné la planète et reçu bien des prix. Et depuis 2007, vous produisez et animez l'émission Saletant pour la planète sur France 5. Bonjour Morad Aitabouche.
Bonjour Christophe Bourseiller.
Ainsi, de la sorte et conséquemment, Morad Aitabouche nous aide à sauver la planète, tandis qu'Étienne Klein nous aide à la penser, la planète que nous occupons provisoirement. Magnéto Juliette.
France Inter. Estivalitude.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça encore ?
Christophe Bourseiller.
Étienne Klein, vous connaissiez Morad Aitabouche ?
Oui, je le connaissais parce qu'il est grand reporter et donc fait des choses qui sont regardées par tous.
Ouais. Et Saletant pour la planète, vous connaissiez cette émission ?
Absolument,
ou vous l'avez regardée ?
Je l'ai regardée deux fois.
Ah ouais, d'accord.
Et c'est pas toujours Saletant d'ailleurs, il y a parfois des bonnes nouvelles.
Il fait très beau et c'est surtout des images magnifiques. Morad Aitabouche, vous connaissiez le travail d'Étienne Klein ?
En fait, en toute franchise, pas vraiment. J'ai un ami qui systématiquement, depuis un ou deux ans, m'envoie des vidéos d'Étienne Klein. Je dis mais qui c'est ? Et en fait, j'ai découvert d'abord que c'était un physicien de renom et surtout que c'était quelqu'un de très très drôle avec des anagrammes. Enfin, moi je suis sûr qu'on va passer une heure très drôle.
C'est un personnage tout à fait hors du commun. Étienne Klein, mais vous aussi d'ailleurs, tous les deux. En fait, vous avez de multiples points communs, je vous les donne. D'abord, vous produisez tous les deux des émissions de radio ou de télévision. Vous voulez, je pense, tous les deux sauver la planète. Et tous les deux, vous sortez de votre bureau, comme disait Mao, vous citez Mao le matin sur France Inter, vous descendez de cheval pour cueillir les fleurs, c'est-à-dire pour affronter la réalité. C'est un peu ça, Étienne Klein.
C'est Mao qui a dit ça ?
C'est Mao qui a dit ça, oui. Il faut descendre de cheval pour cueillir les fleurs. C'est bien sa plus jolie citation.
Moi, hein. Je connaissais le poisson. Sont pourris par la tête.
C'est moins drôle.
Oui, non, moi je sors de mon bureau au sens où je pense qu'en effet, alors je suis vulgarisateur, j'assume parfaitement le terme, l'idée c'est de clarifier ce qu'on apprend par la physique pour pouvoir le dire avec des mots que tout le monde peut comprendre, ce qui ne veut pas dire parler comme tout le monde, c'est-à-dire que ce que la physique nous apprend n'est pas déjà dit par le langage. Et donc, il faut travailler le langage pour pouvoir dire les messages qui nous viennent de la physique.
Vous dites, je crois être quelqu'un de jazz parce que je décale la science par rapport à ses lignes habituelles.
J'ai dit ça ?
Oui, vous avez dit ça. Bon. Ah bah j'ai travaillé, hein, j'ai préparé, croyez pas qu'on fait ça comme ça. Hein.
J'aurais plutôt dit je suis rock, mais...
Ah bah là, vous avez dit, c'est curieux, on va parler des Rolling Stones tout à l'heure. Vous dites aussi dans votre livre « Matière à contredire », les murs sont à la mode, les ponts semblent-ils moins, les physiciens lancent des pavés dans la mare des idées reçues.
Oui, il faut envoyer ça à Donald Trump.
Parce que, en fait, l'idée, c'est que vous établissez des ponts.
J'essaie d'établir des ponts, de me situer entre les disciplines. Vous avez dit, je suis physicien et philosophe, c'est faux, je suis ni l'un ni l'autre, je suis entre.
Ah, vous êtes entre. Vous n'êtes pas facile à définir.
Ben non, mais c'est comme ça.
Oui. Et il y a quoi entre la philosophie et la physique ?
Ben, par exemple,
la métaphysique ?
Regardez, cette année, il y a un sujet de bac qui était « Peut-on échapper au temps ?» Et puis le sujet de philosophie à l'agrégation, c'était « Le temps ». Or, les livres à lire, c'était Heidegger, Merleau-Ponty, Bergson, Saint-Augustin, Kant, etc. Or, les physiciens ont parlé du temps. Newton, Einstein, Galilée avant. Les philosophes parlent du temps. C'est le même mot. Bah, est-ce que ça désigne la même chose ?
Ah, ça, c'est une question.
Si la réponse est oui, qui est-ce qu'il faut écouter ? Et si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot ?
Alors, écoutez ça, Étienne Klein, vous me dites si ça vous rappelle quelque chose.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, que pouvons-nous dire sur les trous noirs ?
Je me demande bien ce qu'on pourrait dire sur les trous noirs ce matin et je ne me sens pas capable personnellement de dire quoi que ce soit. Ça, c'est une émission que vous produisez sur France Culture régulièrement et qui passe le dimanche pendant tout l'été.
Pendant l'été et qui passe le samedi à 16h pendant l'année. Et c'est une émission de conversation scientifique, mais on ne parle pas forcément de science, c'est simplement un scientifique qui pose des questions à quelqu'un d'autre.
Oh, c'est passionnant.
Et d'ailleurs, l'anagramme de la conversation scientifique, vous parliez de écart, c'est ce qu'on sait à côté vers l'infini.
D'accord, parce que vous êtes aussi un fou de l'anagramme, mais là ça devient trop complexe. Morane Aitabouche, il y a une dimension scientifique dans votre travail. Je rappelle que vous allez, vous nous offrez des reportages, des documentaires magnifiques sur des zones très belles qui sont menacées par l'homme, par le réchauffement, etc.
Oui, en fait, c'est d'abord et avant tout cette planète ou cette beauté fragile. Il y a un aspect scientifique, évidemment, puisque l'idée c'est de donner la parole aux scientifiques. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, 97% des scientifiques dans le monde, j'ai rencontré d'ailleurs celui qui a fait cette étude en Australie, 97% des chercheurs aujourd'hui disent qu'il y a réchauffement, que l'homme, évidemment, accélère un processus en cours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'essaye le plus possible de donner la parole aux chercheurs, mais pas seulement, parce que ce qui, moi, m'importe le plus aussi, c'est les gens qui subissent. Faut savoir quand même que c'est très discriminatoire, le réchauffement planétaire. Ce sont les populations les plus pauvres qui payent le plus lourd tribut. C'est sûr que Donald Trump, on en a parlé tout à l'heure, il a plusieurs villas, c'est un peu Cadet-Roussel. Si sa villa a...
Cadet-Roussel qui a trois maisons, si je me souviens
moins,
bien.
Ah,
c'est
moins.
Ça, oui.
Si sa villa là à 10-20 millions d'euros. D'ailleurs, il en a une à Saint-Martin. Irma, le cyclone, a frappé l'île il y a 2 ans maintenant. Sa maison a à peine été touchée. Mais si cette maison avait été ravagée, il en a 10 autres. Donc il n'est pas préoccupé, lui, par la question du changement climatique. Mais c'est bien qu'il existe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il permet aux scientifiques, encore et toujours, de mettre la question du changement climatique et du réchauffement planétaire au centre de nos conversations. Quel est le sujet dont on parle le plus tous les jours ? Le climat, la météo. Les gens ne savent pas qu'ils parlent climat, ils pensent qu'ils parlent météo parce qu'ils se disent « Oh, il va faire beau aujourd'hui » ou « Oh, il fait plus chaud aujourd'hui ».
Alors, c'est marrant que vous disiez ça parce que moi, j'ai lu quelque part qu'Étienne Klein, vous dénoncez ce que vous appelez le populisme scientifique. Vous vous souvenez, vous faites ça,
absolument,
vous dénoncez ça, et
et
vous parlez apparemment des climato-sceptiques, justement.
Ce que je dénonce, c'est le fait qu'on utilise une sorte de bon sens pour contester la science. Or, la science, en tout cas dans sa version moderne, elle est apparue contre le bon sens, même contre l'observation. Quand vous faites tomber des corps de masse différentes, vous voyez que les plus lourds tombent plus vite que les plus légers.
Oui, mais les scientifiques, c'est comme les médecins, ils sont jamais d'accord entre eux.
Ah si, et Galilée dit « tous les corps tombent à la même vitesse », ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et donc cette loi qui dit que tous les corps tombent à la même vitesse oblige à réinterpréter l'observation et à dire que quand on fait tomber des corps dans l'atmosphère, la gravité les fait tomber de la même façon, mais il y a d'autres forces liées à la présence de l'air qui créent des différences de vitesse entre les plus lourds et les plus légers. Donc, comme le disait Gaston Bachelard, grand philosophe des sciences, faire de la science, c'est penser contre son cerveau, c'est-à-dire c'est provoquer son cerveau.
C'est penser contre son cerveau.
Des idées que son cerveau ne pense pas spontanément.
Ça vous parle, Morane Aitabouche ?
Non, ce qui est important à dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, les scientifiques, quand ils parlent climat, on a tendance à ne pas les croire. Quand on va chez le médecin et qu'il diagnostique, par exemple, une maladie, vous allez voir éventuellement un deuxième médecin pour un deuxième avis, peut-être un troisième.
Oui, voilà, ils ne sont jamais d'accord entre eux.
Oui, mais à la fin, vous allez les croire si vous disent que, effectivement, vous avez cette maladie. Aujourd'hui, le problème majeur, c'est que vous allez voir 97% des chercheurs sur le climat, mais ils ne sont pas seulement climatologues, ils sont sociologues, ils sont économistes, en fait. C'est un spectre très très large. Vous allez les voir, et parfois, on remet ça en question. Qui remet en question ? C'est des Claude Allègre. C'est les journalistes qui, à un moment, invitent sur un plateau des gens qui vont débattre pour ou contre. La question aujourd'hui, c'est une question pédagogique. Comment expliquer aux gens ce qu'est le changement climatique ? Pourquoi ça va nous affecter ? Pourquoi demain, il va falloir réfléchir autrement sur notre mode de vie ? C'est ça qui est le plus important pour moi. Et c'est vrai que le scientifique, quand il est vulgarisateur comme Étienne Klein, c'est formidable parce qu'il ne parle pas à ses collègues. Il parle aux Français, il parle aux gens qui subissent. C'est pour ça que c'est important. Tout à l'heure, vous me posiez la question, est-ce que j'interroge des scientifiques ? Oui, mais les gens aussi qui subissent, qui voient, un peu comme saint Thomas. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a 10 ans, en Martinique, le président de l'association des bananes antillaises m'avait dit « Oh, le réchauffement planétaire, mais c'est vous qui avez un réchauffement du cerveau. Dans 50 ans, vous ne serez plus là pour justement qu'on vous montre que ce que vous dites aujourd'hui est faux. » C'est fou.
Ouais. En tout cas, c'est une chanson pour vous, Morane, du coup, puisqu'elle parle de la nature. C'est « Beaux rivages » de Dominique A.
Nous échouerons beau rivage auront perdu beaucoup de temps, égarés dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment, auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur beau rivage nous échouerons. Avant convoité monde meilleur, à force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures, avons révoqué la douceur sur des chemins de roses enfouies. Bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à beau rivage, l'endroit parfait qui nous attend. Aurons perdu beaucoup de temps par d'autres lieux pris en otage. Auront connu en solitaire les teintes de tant d'horizons, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur beau rivage nous échouerons. Nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées, à travers l'an des marécages. Sans chemin avons repoussé, essuyant des larmes d'orage, au fond de vallées dépeuplées. Nous échouerons à beau rivage, l'endroit parfait qui nous attend, par-delà lande et marécage, avons perdu beaucoup de temps. Avons écumé toutes les terres, vendangé toutes les illusions, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur beau rivage nous échouerons.
C'était Dominica, Beau Rivage sur France Inter dans Estivalitude.
Éboulement, recul des glaciers. À mesure que la température augmente, les Alpes souffrent et le mal s'amplifie au fil du temps.
On a perdu 128 mètres d'épaisseur, ce qui correspond à une perte moyenne sur 30 ans de 4 mètres par an.
Partout, les glaciers les plus connus reculent. Ce sont des indicateurs du réchauffement planétaire. Et plus on monte en altitude, plus dur est le constat.
Ce glacier, c'est comme ma grand-mère. Et je crois que personne n'a envie que sa grand-mère meure plus vite que prévu.
Alors là, on vient d'écouter un extrait d'une de vos émissions, Morada Itabouche, Sale temps pour la planète, consacré aux Alpes. En deux mots, quel est le concept de cette magnifique série documentaire, Sale temps pour la planète ?
Alors, je le disais tout à l'heure, c'est beauté fragile et c'est raconter la planète qui tourne pas toujours très rond. Et quand on entend cet extrait, on se rend compte à quel point. Dire, il y a un rapport charnel quand vous entendez cette ancienne championne de ski parler du glacier de Tignes comme sa grand-mère qui agonise. Enfin voilà, il y a un rapport comme ça qui est très intime avec la nature. Et quand on est dans ce rapport-là, moi je trouve que c'est là où j'ai le plus de plaisir à parcourir le monde, parce que justement je suis à la rencontre de gens qui vivent, qui cohabitent avec la nature.
Alors vous savez, Morad, que Étienne Klein, ici présent, est un fou des Alpes. Vous êtes un adepte de l'alpinisme, c'est quelque chose que vous pratiquez. Pourquoi cette passion pour les Alpes, Étienne Klein ?
Moi j'ai pas mal voyagé ailleurs que dans les Alpes, et à chaque fois je reviens aux Alpes parce que... j'y ai des amis, et puis le granit de Chamonix, il est difficile à trouver ailleurs.
C'est votre granit ?
Non, je dirais pas ça.
Mais vous, votre plaisir, c'est grimper, c'est ça?
C'est grimper et courir.
Ah oui, vous courez avec un dénivelé hallucinant, c'est ça?
Non, il y a des courses qu'on appelle des trails, des ultra-trails.
Ah oui, vous faites de l'ultra-trail.
Ce sont des expériences très passionnantes à vivre.
Morad, en quoi les Alpes sont-elles menacées?
En quoi les Alpes sont-elles menacées?
Expliquez-nous, c'est... parce que... Ah bah, est-ce que, par exemple, Morad, est-ce que, Étienne, vous avez l'impression que les Alpes ont changé depuis le temps?
Moi, je pratique l'alpinisme depuis plus de 30 ans, et la mer de glace, par exemple, a profondément changé.
Ouais.
Les chutes de pierre augmentent. L'isotherme zéro, c'est-à-dire la zone en deçà de laquelle il fait moins de zéro systématiquement, se déplace, ça se mesure. Et donc, on voit bien que le réchauffement agit là de façon visible.
Sur la mer de glace, il y a le pic des Drus. Qui est un symbole pour les guides de haute montagne de Chamonix. Malheureusement, 500 mètres se sont écroulés. Ça veut dire que cette fragilité dont on parle, si on devait à un moment ou à un autre parler d'un symbole du réchauffement de la planète, les Alpes seraient probablement un des meilleurs exemples. Sûrement pas le Kilimandjaro comme certains ont pu le dire à une époque, hein, les neiges éternelles, etc. Non, les Alpes aujourd'hui souffrent. Et quand on voit, et vous le regarderez le 24 juillet sur France 5, hein, je précise France 5 parce qu'ils sont fidèles depuis 2006. C'est quand même assez rare de parler aujourd'hui de réchauffement planétaire parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué d'imposer une idée pareille.
Absolument, il y a très longtemps. Oui, c'est vous qui avez imposé cette idée-là.
Alors imposer, j'ai hélas pas ce pouvoir, j'aurais bien aimé. Mais pendant près de 25 ans, je couvrais les conflits partout dans le monde. Et c'est vrai qu'on me disait de plus en plus régulièrement, oh, c'est très anxiogène, les films sur les conflits, la guerre, la misère dans le monde, etc. Et je cherchais une idée, comment continuer à parler du monde qui souffre tout en allant à l'extérieur. Parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'ouvrir les Français à autre chose que nos frontières hexagonales. Et je me suis dit, finalement, le réchauffement planétaire, le fait que ça soit très discriminatoire, ça touche d'abord et avant tout les populations les plus fragiles dans le monde. Bangladesh, Inde, Sahel. Et c'est vrai que c'est une idée qui, finalement, s'est imposée. Et France 5, à l'époque, très franchement, et encore aujourd'hui, hein, on sent qu'ils ont une très grande ambition par rapport à la planète, parce qu'il faut impérativement, et moi je pense que c'est essentiel aujourd'hui, il faut en parler. Il faut en parler, et en parler en, comment dire, avec de la pédagogie. Il faut pas être dans le débat houleux, il faut pas être dans l'affrontement. Non, en gros, on va avoir une tempête. Parce que on réfléchit de moins en moins au monde de demain. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une utopie. Comment vivra-t-on dans 50, 100 ans? On sait que de toute façon, avec le réchauffement planétaire, à un moment ou à un autre, on va devoir affronter une tempête. Tous.
Alors, vous avez été longtemps reporter de guerre, hein, Morad Aitabouche. Vous disiez à l'époque, 80% de mon boulot, c'était la couverture des conflits. Je voudrais juste qu'on écoute un tout petit extrait pour avoir une idée de l'un de vos reportages. C'était en Bosnie, en 1996.
Nous sommes dans le fief des Serbes de Bosnie, là où vit actuellement l'un des hommes les plus recherchés au monde. Ce jour-là, nous avions rendez-vous avec lui, avec Radovan Karadzic, poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On le disait barricadé, terré dans un véritable bunker, mais autour du palais présidentiel, nous ne compterons pas plus de 5 ou 6 hommes armés de Kalachnikov.
Oh là là, on a l'impression d'être dans un film de SAS, hein, tel que vous nous présentez.
J'adore Gérard de Ville et je trouve qu'il raconte la géopolitique.
Alors vous avez couvert l'Afghanistan, le Kosovo, l'Irak, l'Algérie, la Somalie, le Sierra Leone. Juste une question, on dit que les reporters de guerre sont parfois inconscients. Quel est le plus grand risque que vous ayez pris?
Quel est le plus grand risque? Je sais pas, peut-être de...
Il paraît que vous avez été arrêté aux Comores en 2003.
Oui, parce qu'en fait, je suivais, j'étais en immersion avec des anciens de Bob Denard qui tentaient un coup d'État. D'ailleurs, il y avait parmi eux Philippe Verdon, qui ensuite a été kidnappé et qui a été assassiné. Non.
Donc vous avez été arrêté pour tentative de coup d'État.
Oui, alors l'histoire est un peu plus compliquée parce que j'enquêtais parallèlement aussi sur des fonds qui avaient permis à des partis politiques français d'être financés et donc ça ne plaisait pas beaucoup. Et le procureur à l'époque avait une liaison avec quelqu'un de l'ambassade de France, qu'on ne citera pas, et il avait trafiqué mon passeport pour me dire que mon passeport était faux et que j'étais un mercenaire moi-même alors que j'étais envoyé officiellement par Canal+. Mais pour revenir deux secondes sur Radovan Karadzic, faut quand même imaginer qu'à l'époque, on est en pleine guerre, hein, et que, grosso modo, tout le monde est convaincu que Radovan Karadzic se terre, se planque. Et il était au vu au sud de tout le monde. Il avait des complicités au sein des armées alliées pour pouvoir passer les checkpoints. Faut quand même savoir que lorsque je lui pose la question, mais comment vous faites pour ne jamais être arrêté, il est parti d'un rire très très gras en me disant mais je suis chez moi. En gros, il avait des vraies complicités et c'est ça qui est le plus terrible. J'ai rencontré aussi Ratko Mladic, j'ai rencontré Arkan. En gros, c'était les pires salopards de la guerre en ex-Yougoslavie. En plus, avec mon profil, je m'appelle Morad Eitabou, j'étais du côté des Serbes. À un moment, Mladic, on était plusieurs jours avec lui sur le front, et puis il y a son chef d'état-major qui vient voir mon interprète et qui lui dit, c'est marrant, mais il a quand même un peu des traits arabes.
Et mon oui, interprète... l'ennemi bosnien qui était musulman à l'époque,
voilà,
faut préciser
et,
ça.
Exactement. Et mon interprète lui dit, non, il est juif, il s'appelle David. Et à l'époque, les Serbes pensaient comme les Juifs, en tout cas les Serbes pensaient comme ça, ce qui est complètement stupide, mais qu'ils étaient un peuple complètement, comment dire...
Bon, il y avait aussi des tortionnaires, il n'y avait pas des tortionnaires que chez les Serbes, hein, c'était plus nuancé que ça.
Clairement, j'ai fait un film sur Srebrenica, évidemment, je mets en cause les Serbes, parce que c'était une politique planifiée de génocide, mais du côté des Bosniaques, comme du côté des Croates, qui sont finalement les grands vainqueurs de cette guerre, les Croates. Aujourd'hui, il ne faut quand même pas oublier que c'était les Oustachis, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale,
c'était
donc les pro-nazis, exactement. Oui, oui. Aujourd'hui, ce sont les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui se sont associés directement avec les Allemands, qui ont probablement provoqué cette guerre, qui a fait quand même des centaines de milliers de morts.
Alors ça, c'est pour vous, Étienne Klein, j'ai un cadeau pour vous, c'est votre groupe favori, les Rolling Stones. Je les ai choisis dans leur période psychédélique, c'est-à-dire en 1967, 2000 Light Years from Home.
Yeah.
Voilà, c'est ça l'estivalitude. Nous voici à 2000 années-lumière de la maison, 2000 light years from home. C'était mon petit plaisir du matin. Les Rolling Stones, bien sûr.
Estivalitude sur France Inter.
Étienne Klein, je trouve que vous ressemblez un peu à Keith Richards.
Ah bon?
Est-ce que j'ai raison?
En tout cas, ça me fait plaisir.
Il y a quelque chose. Hein. C'est une passion, les Rolling Stones, je crois.
Mais non,
vous détestez ce groupe.
Je n'écoute que les Rolling Stones, mais ce n'est pas une passion.
Que les Rolling Stones. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît tant dans les Rolling Stones?
C'est un peu comme les Alpes. Je reviens toujours aux Alpes.
Ah ouais, vous êtes un obsessionnel.
Même si je fais des excursions loin des Rolling Stones, j'y reviens toujours.
Vous me fascinez.
D'ailleurs,
il
joue ce soir.
Vous qui vous situez, il joue ce soir où?
À la Nouvelle-Orléans. Ah, ils ont décalé une journée à cause de l'ouragan.
D'accord.
Et voilà, ils jouent depuis 54 ans ensemble.
Vous les avez vus combien de fois en concert?
Je crois que c'est 7 fois.
7 fois, d'accord. La première fois, c'était quand?
C'était à Longchamp.
1982.
Sans doute, oui.
J'y étais.
Ah bon? Il y a eu deux soirs.
Ah bah, je sais pas, j'étais un soir. Non, il faisait beau. Le soir où j'étais, il faisait beau.
Moi, j'étais au Parc des Princes. Il pleuvait des cordes. Mais il pleuvait des cordes.
Mais ils jouaient.
Mais ils jouaient. Exactement.
Et j'ai découvert les Rolling Stones en 1975 avec Eli Chouraki qui m'a emmené à un concert des Rolling Stones. Alors là, c'était quelque part du côté de la Porte de Saint-Ouen. Palais des sports de la Porte de Saint-Ouen. Enfin, bref,
j'ai une question pour Morad. Est-ce qu'il sait qu'il y a un parti écologiste américain qui vient de se créer, il y a peu de membres, évidemment, qui a choisi comme slogan « Il faudrait qu'on commence à s'inquiéter de l'état de la planète que nous allons laisser à Keith Richards
». Alors, j'ai entendu ça dans une de vos émissions, figurez-vous.
Ouais. Alors, Étienne Klein, il y a quand même un truc formidable avec vous, c'est que vous avez écrit un livre co-écrit avec Jacques Perry-Salkoff qui s'appelle « Anagramme renversante ou le sens caché du monde ». Je sais que l'anagramme d'Étienne Klein, c'est « Nein, keine Télé ». Non, pas de télé en allemand. Heureusement qu'on est à la radio, Étienne Klein.
C'est pour ça qu'on est à la radio.
Bien sûr.
Mais il y a aussi « Like 19 ».
C'est quoi Light 19?
C'est comme si j'avais 19 ans.
Ah ouais, d'accord.
C'est mieux, non?
Ah ouais, c'est génial. Vous en avez beaucoup des Cousteau, c'est quoi Cousteau?
Non, le commandant Cousteau, ça donne tout comme ça dans l'eau.
Non, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que ça révèle? C'est l'inconscient? L'anagramme est un révélateur de l'inconscient?
C'est du hasard pur, hein. Il n'y a pas de sens caché. Mais ça marche. Ça m'a appelé beaucoup parce qu'on est tous un peu kabbalistes.
Ah, c'est votre même côté kabbaliste?
Non, moi je ne le suis pas du tout, mais je remarque que beaucoup de gens le sont. Ouais. Par exemple, mon ami Jacques Perry-Salkoff, que vous venez de citer, a trouvé récemment, pendant les grèves de la SNCF, l'anagramme de la SNCF.
C'est quoi?
La Société Nationale des Chemins de Fer Français.
Ouais.
Ça donne « tes doléances faisaient chier le monde ».
En fait, ce qu'il dit pas, parce que moi, il me l'avait raconté en coulisses.
Non,
c'est la
pas
réaction. Non, on peut pas. La réaction du président de la SNCF.
Oui, que j'avais croisé sur un quai.
Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Mais il a fait demi-tour.
Bah, vous êtes trop subversif. Écoutez, c'est plus possible. Alors, il y a une histoire dans votre vie qui est incroyable, j'avoue. Étienne Klein, c'était beaucoup plus jeune, à 30 ans. Vous veniez de gagner une course à pied, ce que j'ai lu. Et puis, à ce moment-là, un médecin vous a diagnostiqué un cancer à la gorge et vous donnez 6 mois à vivre. Et
c'est une histoire plus longue que ça. Mais
oui, enfin, je la résume parce que nous sommes malheureusement...
Moi, j'étais en pleine forme et on m'annonce que je suis malade.
C'est ça. Voilà, vous étiez en pleine forme, vous venez de gagner un ultra trail.
Non, un cross, un petit cross.
Un cross. Enfin, pardon, j'y connais rien. Non, donc, vous savez, déjà me déplacer d'un point à un autre à pied, ça me
fait le cross de Supélec. C'est la seule course que j'ai jamais gagnée.
Et ce qui était fou, c'est que ce diagnostic qui vous a fait croire pendant plusieurs mois que vous étiez mourant était erroné.
Oui, mais j'ai perdu la voix. Enfin, mais ma devise de l'époque, après qu'on m'ait opéré et que j'ai perdu la voix, ça a été, il vaut mieux avoir une extinction de voix qu'être en voie d'extinction.
C'est tout à fait vrai. À qui le dites-vous?
Mais on peut rééduquer sa voix et ne parler qu'avec une seule corde vocale.
Vous dites aussi, je bouge pour me prouver que je ne suis pas mort.
J'ai dit ça.
Ah bah oui, mon vieux, vous l'avez dit.
J'aimerais bien connaître vos sources.
Bah, mes sources sont les nombreuses interviews que vous avez données au cours de votre vie. Morad Aitabouche, quelle question voulez-vous poser à Étienne Klein?
Question, en fait, que je me pose moi tous les jours. Quel monde, comment est-ce qu'on peut vivre demain plus en harmonie avec la nature? En fait, comment est-ce qu'on va pouvoir enfin peut-être résister à ce qui nous attend?
La façon dont vous me l'aviez formulé, c'était pas mal. C'était un autre monde plus en phase avec la nature, est-il possible?
Ben, la nature, c'est quelque chose qui devient difficile à voir. Moi, je pense que mon travail, c'est plutôt de travailler à la diffusion des connaissances, et je découvre que c'est pas du tout simple. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il suffisait d'expliquer les choses pour qu'elles soient comprises telles qu'on les avait expliquées. Et je découvre qu'il y a toutes sortes de biais qui font que les messages sont déformés. En fait, nous avons tous beaucoup de connaissances y compris scientifiques. Nous savons tous que la Terre est ronde, nous savons tous que l'atome existe, nous savons tous que l'univers est en expansion, mais nous ne sommes pas capables de dire comment ces choses-là ont été sues dans l'histoire des idées. Par exemple, si je dis que la Terre est ronde, je ne suis pas forcément capable de dire comment on a su, au cours de l'histoire, qu'elle était ronde. Par quels arguments ça a été démontré, etc. Et comme les canaux de communication d'aujourd'hui font circuler de la même façon des connaissances, des croyances, des commentaires, des opinions, des faits, des actualités, des fake news, les statuts respectifs de ces différentes choses se contaminent. Et quand quelqu'un parle d'une connaissance, on se demande si c'est pas un petit peu une croyance. Quand on parle d'une croyance, on se demande si elle ne contient pas une part de connaissance, etc. Et il y a une grande confusion. Il y a 15 jours, un sondage est paru qui m'a traumatisé. Les gens savent qu'il y a un réchauffement climatique, d'après ce que dit ce sondage, mais ils sont 69% à penser qu'il est dû au nucléaire. Alors, on peut reprocher tout ce qu'on veut au nucléaire, mais pas ça. Et donc, je me demande si il y a quelque chose qu'on a mal fait ou qu'on a mal compris dans la façon dont les propos circulent. Et moi, je pense que, pour répondre à la question de Morad, à la place où je suis, il s'agit de travailler à ce que nous décidions du futur en tenant compte de ce que nous savons. Alors que nous sommes capables de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Par exemple, si les climatologues nous disent des choses qui nous déplaisent, alors nous trouvons des arguments fictifs pour contester ce qu'ils disent.
Absolument, en s'appuyant sur le fameux bon sens qu'on opposera à la science.
Ah, il fait froid au mois de mai à Paris, donc il n'y a pas de réchauffement. Comme voilà. Si la température à Paris était indicatrice de la température de l'atmosphère.
Il faisait frais ce matin. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, quand je suis venu à la maison de la radio, j'ai failli mettre une laine, hein, quand même.
Il y a Albert Moukaïber, qui est docteur en neurosciences, qui est un ami avec qui j'adore discuter, et qui dit l'illusion de la connaissance est parfois plus dangereuse que l'ignorance. Et c'est vrai, on a l'impression de savoir et on écoute quelqu'un parce qu'on est proche de lui, on va pas écouter l'autre. Alors que parfois, et c'est pour ça que je parle de pédagogie et le temps de la pédagogie, parce qu'il faut d'abord comprendre pourquoi la Terre est ronde et comment on en est arrivé à ce process.
Et puis j'ai l'impression aussi que la sincérité devient un argument. Ouais. Si on est sincère, alors tout
va
bien.
Faire croire qu'on est sincère.
On est sincère, donc on peut pas être contesté. Sincérité vaut preuve.
C'est vrai. Alors Morad, là, je sais que Étienne a une question pour vous. Prenez des notes, c'est l'oral du bac, ça commence. Allez-y Morad. Étienne, posez votre question s'il vous plaît.
C'est une question pour le premier Morad, celui qui était reporter de guerre. Alors en physique quantique, comme on l'appelle, la physique des particules, on a l'habitude de dire que quand on fait une mesure sur une particule, ça change son état. C'est-à-dire, le fait de faire une mesure modifie l'état physique de l'objet. Et la question que je voudrais vous poser en tant que reporter de guerre, c'est quand on arrive sur un terrain de conflit avec un micro, une caméra, comment est-ce que ça modifie les relations entre les gens que vous observez, que vous rencontrez? Est-ce que le fait d'être vu modifie les comportements au point qu'il y a toujours une forme de tromperie à l'arrivée?
Alors, on va pas se mentir, on est subjectif à partir du moment où on arrive avec une équipe et une caméra. De fait, on va un tout petit peu modifier le comportement des autres. Moi, au début, quand je travaillais pour France Télévisions, reporter de guerre, on partait à 3 ou 4. Après, pour passer plus de temps avec les gens, pour être peut-être plus proche d'eux et de leur histoire, je partais seul avec ma caméra, mon matériel, etc. Oui, il y a une part de subjectivité, pas de tromperie. Je pense qu'effectivement, la manière dont on va interroger les gens, la manière dont on va les approcher, la manière dont on va rester avec eux à un moment pour essayer de mieux les comprendre, mieux appréhender leur réalité, etc. Mais moi, j'ai toujours coutume de dire que je préfère passer du temps avec ces gens-là parce qu'ils sont sincères, parce qu'en fait, ils sont sous les bombes ou sous la pression, la tension. C'est pas comme des politiques qui ont des arguments qu'on leur écrit et qui ne font que répéter. Là, vous avez de la sincérité qui vient d'un contexte difficile.
Estivalitude. Christophe Bourseiller sur France Inter.
Don't even gotta try. You know. I like shouting, nigga, better over time. You know. They just say I'm not the baddest bitch you like. You ain't my
the juice don't look like this. Like this, like this, like this. Holla, nigga, please don't make me have to take your bitch. Shit. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I was born like this, don't even gotta try. You know. I like shot a nigga better over time.
C'était Lizzo Juice. Alors là, j'ai fait un effort de désannonce, vous allez me dire. Entre rap et R&B, Lizzo impose son mojo et ses Snapchat. J'essaie d'être un peu dans le ton. Une programmation fuzzy groovy, ce qui veut dire pelucheuse et dans la note, je précise quand même, de Muriel Pérez.
Moi, je vais juste vous parler de ce qui, je crois, dans mon parcours, permettra d'avoir un projet qui sera au mieux. Le parcours d'un scientifique entré en politique pour faire une politique rigoureuse, basée sur les faits, avec une grande ambition pour la capitale, qui s'appuie sur les comparaisons internationales, qui s'appuie sur l'ouverture et qui s'appuie sur le rassemblement. Scientifique, on est convaincu que c'est en écoutant toutes les voix qu'on trouve les bonnes solutions.
Alors ça, c'est passionnant. Vous voyez, Étienne Klein, là, j'ai pensé à vous, bien sûr, parce que c'est Cédric Villani que tout le monde connaît, qui donc s'est présenté, comme vous le savez, à la mairie de Paris. Puis on attend les péripéties, la suite, bien sûr, de savoir s'il maintient ou non sa candidature. C'est un autre sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se présente ici en tant que scientifique entrant en politique. Ça vous parle, ça?
Ah, ça me fait plus que me parler. Moi, j'admire Cédric Villani. Le divin clérical, son anagramme.
Ouais. Ah, le divin, Cédric Villani, le divin clérical.
Pour ses travaux en mathématiques, mais surtout pour sa façon de faire de la politique. Il est bienveillant, il écoute, il est capable de faire des synthèses. Et le fait qu'un scientifique comme lui s'engage en politique, c'est la meilleure nouvelle de l'année, à mon avis. Et je comprends pas qu'on hésite à propos de l'offre qu'on doit lui faire quand il se présente candidat quelque part.
Oui, vous avez été surpris du fait qu'il a été mis de côté par la commission d'investiture de son parti.
J'en suis pas revenu. 17 voix pour l'autre et 0 pour lui, ça ressemble à un score bizarre, non?
C'est bizarre, ouais.
Alors, le premier maire de Paris s'appelait Bailly. C'était un mathématicien astronome. Ouais. En 1789.
Alors il y a une idée.
Il était guillotiné.
Il y a une idée scientifique qui est intéressante. Vous allez me dire.
Moi,
si
j'ai retenu qu'il y a eu un maire noir à Paris. C'est marrant, nos marottes.
Ah bon? C'est qui le maire noir de Paris?
Je sais plus son nom, mais il y a eu un maire noir.
Ah ouais, formidable.
C'est deux marottes compatibles.
Oui, oui. Ce sont des marottes compatibles. Il y a une notion intéressante chez Emmanuel Macron. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va l'écouter qui en parle. C'est la. Je parle d'un point de vue scientifique, bien sûr.
En même temps.
C'est l'idée du en même temps. Écoutez ce qu'il dit en 2017.
Je continuerai à utiliser. En même temps, dans mes phrases, mais aussi dans ma pensée, parce que en même temps, ça signifie simplement que l'on prend en compte des impératifs qui paraissaient opposés, mais dont la conciliation est indispensable au bon fonctionnement d'une société.
Alors ça, cette idée du « en même temps », c'est quantique?
C'est l'introduction de la physique quantique en politique, oui. En physique quantique, on vous dit que si A et B sont deux états possibles du système, A plus B est aussi un état possible du système. Ça donne le chat de Schrödinger, qui est la somme d'un chat vivant et d'un chat mort, par exemple.
Et vous êtes tenté de faire de la politique vous-même, Étienne?
À ma façon, c'est-à-dire que je pense que...
Moi, je vote pour vous.
Mais diffuser les connaissances scientifiques, montrer qu'elles sont différentes des croyances, c'est une forme de politique.
La candidature de Cédric Villani est intéressante de ce point de vue, parce qu'effectivement, il a une parole et il est entendu. Et moi, je trouve que son engagement en tant que scientifique, mais en tant qu'homme aussi, est important. Et c'est là où je trouve dommage que, finalement, on ait choisi trop vite.
Oui, c'est la politique qui a prévalu sur l'audace, c'est ça que vous voulez
dire? C'est ça. Et puis, en même temps, je pense que le débat aurait mérité d'être posé avec Cédric Villani, qu'on lui donne la parole. Là, c'est fini. Si jamais il décide de se retirer, c'est fini. On n'aura plus cette parole.
Ouais. Morad Aitabouch, vous avez participé avec plusieurs personnalités comme Rachida Dati, Fleur Pellerin ou Hakim El Karoui à une initiative assez intéressante qui s'appelait le Club du 21e siècle, ce qui était un équivalent, si j'ai bien compris, d'un club ultra sélect et très fermé qui s'appelle Le Siècle, auquel participent des tas de dirigeants. Mais vous, c'était un siècle réservé aux enfants d'immigration, c'est ça?
En fait, c'était d'abord un pied de nez au siècle, et c'était aussi sur le fait que la France fonctionne en réseau, on va pas se mentir. Et donc, on avait créé ce réseau en disant, finalement, nous qui sommes issus de cette immigration, qui avons eu la chance de pouvoir étudier dans l'école laïque et républicaine, à nous de rendre ce que la France nous a donné. Et donc, on avait décidé de transformer avec ce club des gens qui étaient spectateurs de cette histoire. Faut quand même pas se mentir, on a toujours été spectateurs d'une histoire qui est celle de la France. Et on a dit, il faut qu'on devienne acteur. Et en devenant acteur, on s'engage, parce que moi j'adore aussi l'idée d'engagement, c'est toujours un peu difficile pour un journaliste, mais c'était l'idée que pour moi, la France ne peut être que plurielle. Aujourd'hui, notre patrimoine génétique, quand on parle de la France, moi je suis français, je le revendique, hein, j'ai des origines...
D'origine algérienne, kabyle.
Algérienne, kabyle, amazigh, l'homme libre, je les revendique parfaitement. Moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus formidable, notre patrimoine génétique aujourd'hui, il a évolué. Qui sait que Clovis ne parlait pas français? Qui le sait aujourd'hui? Bon, qu'est-ce qu'être français? Ça c'est des vraies questions. Moi je me revendique parfaitement français, mais avec ces aspérités qui font que la France demain sera plus forte. Ensemble, on avait même écrit, pour tout vous dire, avec Marc Lavoine, Abdel Aïssou et surtout Dominique de Villepin, une chanson qui s'appelle « La France est plus forte avec toi ». L'idée, c'est qu'on ne peut pas exclure l'autre sous prétexte qu'il est différent. Il faut au contraire essayer de les associer parce qu'on sera plus fort. Quand on reprend, puisque vous citiez tout à l'heure le président Macron, « Make the planet great again », évidemment qu'il faut la faire ensemble. C'est pas chacun de son côté par des petits gestes. Il faut que ça soit volontariste. Il faut que chacun d'entre nous, que ce soit les scientifiques, que ce soit les journalistes, que ce soit aussi les citoyens, ce que j'ai créé récemment, quelque chose qui s'appelle « On prend le relais », parce que je crois beaucoup, moi, au mouvement citoyen, au fait de pouvoir pousser les politiques à agir.
Alors, Morad Aitabouch, je vous ai demandé le son qui vous résume, ainsi qu'à Étienne Klein d'ailleurs, et le son qui vous résume, je veux dire, c'est très beau, c'est ça. Bon, alors vous allez me dire, oui, bon, c'est les petits oiseaux, sauf que dans votre voix, Morad Aitabouch, pour vous, ça a une signification très particulière.
Alors, pour deux bonnes raisons. La première, c'est qu'effectivement, malheureusement, on sait aujourd'hui que les insectes ont tendance à disparaître dans nos campagnes. Mais c'est aussi un son que j'entendais lorsque les canons, que les armes se taisaient. Et c'est vrai que c'était un moment comme ça, en apesanteur, sur le front, où on se dit... C'est formidable ce qui se passe parce que c'est beaucoup d'adrénaline, c'était de la fraternité avec les gens avec lesquels on était, parce qu'on savait qu'à tout moment il pouvait se passer quelque chose. Et c'était assez formidable. En Afghanistan, je me souviens, c'était pendant la guerre de Kaboul, j'étais avec un représentant de la Croix-Rouge internationale, et puis il y avait l'heure du thé. Et donc on était du côté des forces de Massoud, et puis il y avait la trêve, c'était l'heure du thé. Et donc on pouvait passer du côté des forces de Gulbuddin Hekmatyar, le Hezb islami, qui était vraiment très dur, des terroristes islamistes. Et puis, alors eux, c'était vraiment les femmes voilées, l'horreur absolue, et justement, plus de son d'oiseau. Et puis après, on allait chez les forces de Dostum. On avait une heure comme ça pour passer d'un camp à un autre. Et dans les forces de Dostum, en fait, on était allé dans un espèce d'HLM où on entendait des bruits un peu bizarres, très 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 bizarres. Et en fait, d'abord, c'était des Ouzbeks, afghans, qui buvaient de l'alcool et qui regardaient des films porno. C'était l'Afghanistan.
Ah voilà, quand les oiseaux chantent. Alors vous, Étienne Klein, on a très peu de temps, mais je voudrais qu'on entende quelques secondes la voix que vous avez choisie. C'est tout à fait surprenant. C'est la voix de Gaston Bachelard, le 1er janvier 1949.
J'ai retourné la radio. Eh bien, l'auditeur, Il vous entend, mais il ne vous écoute plus. Vous lui avez donné précisément ce germe de rêverie. Vous lui avez donné cette rêverie salutaire. Vous l'avez mis dans la perspective, vous l'avez mis sur le chemin, vous le poussez derrière les épaules. Vous dites, va, va au fond de toi-même. Nous entrons dans la nuit, nous entrons dans la nuit, nous entrons dans notre nuit. Nous commençons précisément le chemin des rêves. Alors, vous avez, chez votre auditeur, je crois, donné l'impression d'un repos absolu.
Ah, il a une voix absolument extraordinaire. Oui. Le philosophe Gaston Bachelard, oui. En 1949.
Alors, je merci d'abord, je connaissais pas cet extrait, et il a une voix qui ressemble un peu à celle de Vladimir Yankelevitch dans cet extrait.
Écoutez, si vous me le dites, je vous crois sur parole.
C'est un philosophe qui a compris qu'il se passait en physique des choses qui devraient, dans certains cas, ouvrir le champ de la pensée des philosophes qui, à propos de questions comme celle du temps ou du réel, devraient remanier parfois leur théorie pour tenir compte de découvertes faites par les physiciens.
En fait, l'un et l'autre, vous avez ce point commun, vous ouvrez des passerelles, hein, vous tendez des passerelles, c'est ça votre point commun. Il y a un autre scientifique dont vous parlez beaucoup, Étienne Klein, je voulais juste en dire un mot, parce que ça résonne aussi quand je vous lis, c'est Albert Einstein.
Bah oui.
Mais encore.
Einstein me fascine pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'est pas devenu fou. Si vous regardez sa biographie, ses découvertes qui ont été pour certaines vérifiées de son vivant, son exil, la guerre, la haine qu'il a subie, toutes sortes d'attaques pour des raisons à chaque fois différentes, et il est resté serein, il s'est jamais énervé. Il s'est énervé quand il était enfant. Il y a des témoignages disant qu'il piquait des petites colères, mais adulte, calme, jamais impatient.
C'est votre modèle ?
Non, mais c'est quelqu'un qui me manque au sens où j'aimerais qu'il soit là à commenter l'actualité par exemple.
Il y a une phrase formidable d'Étienne Klein. Vous avez une phrase que je vais juste, c'est à la fin de l'émission, mais je voulais juste la citer parce que je la trouve très belle. J'ai eu une révélation quantique à Genève. C'est presque un titre de roman, je trouve. Ouais. Ma révélation quantique à Genève.
Einstein avait une belle phrase aussi. Il disait, je dors pas beaucoup, mais je dors vite.
C'est très très beau. Merci. Alors je vous remercie infiniment, Étienne Klein et Morad Aïtabouche. Vous avez tous les deux fait preuve d'une remarquable estivalitude. C'était important pour nous, bien sûr. Alors, Morad Aïtabouche, votre émission Saletant pour la planète redémarre donc ce mercredi 17 juillet à 20h50 sur France 5. C'est quoi le thème ce mercredi ?
Ce seront les Landes et ensuite la Martinique.
La Martinique, les Landes. Étienne Klein, on peut vous entendre sur France Culture dans la conversation scientifique chaque dimanche d'été de 17h à 18h. Et je rappelle vos deux derniers livres, Matière à contredire aux éditions de l'Observatoire, Qu'est-ce que la gravité aux éditions du Nom, et puis vous dirigez une collection.
Une collection qui s'appelle Comment a-t-on su ? C'est une sorte de pendant du que sais-je. On explique comment on a su certaines choses qui sont, par exemple, le fait que la Terre est ronde ou que l'atome existe. Quels sont les arguments qui ont fait...
Quels sont les auteurs de cette collection ?
Alors, François Parsi a écrit L'histoire secrète des fleurs.
Ouais.
Il a compris comment... Il s'est passé que les fleurs ont colonisé la planète grâce à une vie sexuelle dont
d'accord,
il dit
bah c'est pas la peine d'en dire plus, on n'a pas le temps. Hein, puis, c'est Alain
Riazuelo, pourquoi la Terre est ronde ?
Ben, je vous remercie beaucoup. Alors, vous pouvez réécouter, podcaster cette émission sur le site de France Inter. Estivalitude est réalisée tout l'été par Juliette Medevielle. L'émission a été préparée par Saad Merzak, Pierre Goulencourt et Astrid Landon. À la technique aujourd'hui, Johanna Cabrit. Notre boutique éphémère réouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter. Je recevrai Audrey Pulvar et Sergi Lopez. Ah, je crois que la liaison est établie avec Laurent Delmas qui se trouve à la fête de la crêpe à Binic. Alors Laurent, y a-t-il des crêpes originales cette année ?
On va voir, tout le monde va entendre que je suis à côté
mais
de vous.
Mais bien voilà, sûr, vous venez nous parler de votre belle émission.
Ciné qui chante reçoit aujourd'hui l'actrice belge Salomé Richard et avec elle nous entendrons les chansons des films de Jarmusch, Demi, Daldry, Cuaron, Kieslowski, Grimaud, Zemeckis et quelques autres.
Bah écoutez, c'est un très beau programme, je vous remercie beaucoup mon cher ami. Et donc moi demain, j'ai qui ? Alors demain, je me retrouve donc avec Audrey Pulvar. On parlera de l'Afrique et avec Sergi Lopez.